Thank you. Thank you. vous êtes bien avec Radio Classique.
Thank you.
Retrouvez Radio Classique de nuit, tous les jours à minuit, sur Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Mathieu Lefèvre.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le PDG de Waga Energy. Vous avez développé un système qui permet de récupérer les gaz émis par les décharges et le transformer en biométhane, qui est un substitut au gaz naturel. Comment est-ce que ça fonctionne, à la fois en termes de captage et en termes de transformation du gaz ?
Alors bonjour, effectivement Waga Energy, que j'ai fondé avec Nicolas Paget et Guénel Prince il y a une dizaine d'années, a cet objectif de lutter contre le changement climatique et d'accélérer la transition énergétique. En récupérant ce gaz qui est spontanément produit par le stockage de nos ordures ménagères, on l'épure à travers une technologie de rupture qu'on a appelée la Waga Box pour en produire un biométhane qui est pur, qui est le substitut renouvelable du gaz naturel. Donc on passe en fait ce gaz impur à travers une usine à gaz qui couple une séparation par membrane, une distillation cryogénique, et on en produit un méthane pur qu'on va pouvoir injecter dans les réseaux de gaz naturel.
Et comment est-ce que vous récupérez ce gaz ? Est-ce qu'il y a un système de bâche, une sorte de couvercle qu'on pose au-dessus des décharges, ou est-ce que vous allez le puiser dans le sol avant même qu'il s'évapore ?
Alors, ce métier, c'est le métier des grands opérateurs de déchets comme Veolia, Suez, etc. Sur les sites de stockage des déchets, il y a effectivement un système de collecte et de captage du gaz où on va pouvoir aspirer la production spontanée en fait des bactéries. Ce gaz ensuite est véhiculé à travers ce système vers cette usine à gaz, la Waga Box, pour être épuré.
Les émissions de méthane dans les décharges contribuent évidemment au réchauffement climatique. Potentiellement, combien de tonnes de gaz à effet de serre pourraient être capturées avec ce système et réinjectées dans notre réseau de gaz de ville notamment ?
Alors, ce sont des millions et des millions de tonnes. Effectivement, le méthane est un très puissant gaz à effet de serre. Sur 20 ans, il a 84 fois le pouvoir de réchauffement du dioxyde de carbone. Donc, c'est une priorité absolue. Waga Energy, rien que l'année dernière, c'est 142 000 tonnes de CO2 évitées par la substitution du gaz fossile par ce gaz renouvelable. Il faut savoir que l'humanité, c'est 2 milliards de tonnes de déchets chaque année qui sont stockées dans ces sites et qui sont un très gros contributeur en termes d'émissions.
Donc, c'est un marché considérable.
C'est considérable. C'est le changement climatique, 30 à 40% est dû aux émissions de méthane. Et dans ces émissions de méthane, le stockage des déchets, c'est plus de 15%.
Et c'est vrai qu'on parle souvent du CO2, mais le méthane est beaucoup plus puissant en termes de réchauffement climatique. Qui sont vos clients ? Vous avez mentionné Veolia. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises privées, des collectivités locales, des acteurs indépendants ?
Effectivement, c'est un marché qui est très diversifié. Notre enjeu est vraiment d'être le maillon manquant entre les grands opérateurs de déchets, qui sont soit des grandes entreprises privées, soit des collectivités locales, et les grands énergéticiens. Donc nous achetons le gaz au premier, nous investissons, nous développons et nous exploitons les Waga Box pour épurer ce gaz et nous vendons le biométhane une fois purifié aux énergéticiens en l'injectant dans les réseaux de gaz naturel.
Qui rachète le gaz une fois qu'il est transformé ?
Alors ce sont encore une fois les grands industriels, les grands énergéticiens comme Engie, Total, etc. Ou des institutions. Nous vendons le gaz à l'Université de Californie, à des grands majors de l'oil and gas, à des industriels divers et variés qui veulent décarboner en fait leur production.
Quelle proportion est reversée aux propriétaires de la décharge ? Est-ce que vous percevez une commission ? Comment est réparti l'argent de la vente de ce gaz ?
Alors, il faut déjà voir que c'est une création de valeur absolue, puisqu'au départ, c'est une pollution qui a des nuisances à la fois climatiques et olfactives. Et la rétribution, on va partager un pourcentage de notre chiffre d'affaires, qui va être variable en fonction de la taille du site, de la valeur de la vente du biométhane. Ce pourcentage, ça peut aller de 10 jusqu'à 50% de nos recettes.
La transition énergétique n'est pas la priorité du nouveau président américain, on l'a bien compris. La Commission européenne a détricoté en partie son pacte vert pour des raisons de simplification. Est-ce que vous redoutez un retour en arrière sur les questions environnementales ?
Alors, c'est sûr qu'il faut rester adaptable, mais non, parce qu'il y a des tendances de fond. On l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous avons besoin d'énergie locale, renouvelable, et même l'administration Trump n'a jamais remis en question le développement des biofuels, c'est-à-dire des carburants issus de biomasse. comme nous produisons cette énergie à partir d'une ressource qui est un déchet, qui est une énergie façale, à ce stade, nous avons un développement qui est extrêmement dynamique, y compris en Amérique du Nord, où 90% de nos usines sont en cours de construction. Depuis l'élection de Trump, nous avons encore signé 4 contrats aux États-Unis.
Alors justement, vous venez de le dire, vous êtes présent aux États-Unis. Est-ce que vous redoutez l'impact de la guerre commerciale sur votre activité ?
Pas vraiment, parce que c'est une énergie, encore une fois, qui est locale. Et nos Wagabox sont fabriqués en partie localement et en partie à Grenoble. Les frais de douane sont apparus, ont disparu. Si jamais, de manière pérenne, il devait y avoir effectivement des frais de douane, alors on pourrait localiser nos constructions à proximité, toujours, de nos sites de production.
Merci beaucoup, Mathieu Lefebvre,
merci
d'être venu ce matin sur Radio Classique.
Très bonne journée
PDG
à tous.
De Waga Énergie.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour mon cher Stéphane, je ne sais pas si vous avez joué dans un Orphéon, mais il paraît que Wagner, lui, avait joué son premier opéra, l'ouverture de Rienzi, dans un Orphéon. Je vais vous siffler l'ouverture de Rienzi, donc je me ridiculise, mais c'est pour rire. Ça continue comme ça, et c'est pas le meilleur opéra de Wagner. Ça ressemble en effet à ces petites fanfares qu'on joue dans les Orphéons. Vous avez les Orphéons, c'est ces petits belvédères, si on peut dire, qu'on trouve, ces petits théâtres, si vous voulez, à colonnes, qu'on trouve dans les jardins publics. Il y en a encore, par exemple, au jardin du Luxembourg. On en trouve encore dans les jardins parisiens, et puis aussi en province, évidemment. Et c'est là que les fanfares s'installaient pour délivrer la musique. Alors, voilà, Orphée est le musicien, le plus grand musicien, supérieur même à Apollon, dit-on dans la mythologie grecque, parce que c'est le fils de Calliope, c'est le fils d'une des 9 muses. Et donc, il a participé évidemment à l'expédition des Argonautes. C'est lui qui a réussi à endormir les sirènes avec son chant qui surpasse celui des sirènes. Alors, on trouve sa description dans les Géorgiques de Virgile surtout, mais aussi dans Ovid. Et comme vous le savez, parce que là aussi, la musique a été prolixe sur le sujet, la musique d'Orphée et Eurydice. Il est tombé fou amoureux d'une sublime jeune femme, Eurydice, et malheureusement pour lui, cette jeune femme va mourir dans des conditions abominables, parce que elle est poursuivie par un méchant qui s'appelle Aristée, qui veut la violer. Elle court comme une folle, elle ne regarde pas où elle met les pieds, elle met le pied sur une vipère, et cette vipère la mord, et elle va immédiatement en mourir, et elle se retrouve évidemment aux enfers. Et aux enfers, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, c'est que Orphée va aller voir Perséphone et Hadès, donc Perséphone, c'est la reine des enfers, c'est la femme d'Hadès, pour les supplier, surtout elle, d'être sensible à son amour et de laisser sortir Eurydice de cet enfer. Et c'est comme ça qu'on va avoir dans la littérature musicale, si je puis dire, dans l'histoire de la musique, quantité d'œuvres qui sont consacrées au chant d'Orphée, essayant de réclamer qu'on lui rende son Eurydice qui est pour l'instant enfermée dans les enfers. Alors, comment il a réussi à la sortir des enfers ? En fait, il ne réussira pas, il va rater. Et ça, c'est une autre histoire que peut-être je vous raconterai un jour.
Merci beaucoup, Luc Ferry. On se retrouve demain.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 7h12, l'édito de l'économie avec le journal Les Échos et avec Étienne Lefebvre. Bonjour Étienne.
Bonjour Marc.
François Bayrou a lancé l'alerte hier sur la situation budgétaire de la France.
Oui, le Premier ministre était dans son meilleur rôle, celui de pédagogue, pour dresser un constat assez juste sur l'état financier du pays, mauvais élève de la classe européenne et menacé de perte de souveraineté si rien n'est fait, avec une charge de la dette qui devrait grimper à 100 milliards d'euros d'ici 4 ans, un gouffre, et des marchés qui risquent de délaisser les obligations françaises en cas de nouvelle dégradation de la note. François Bayrou met donc en garde contre un cercle vicieux potentiellement irréversible. Il a 100 fois raison, d'où cette trajectoire de retour sous les 3% de déficit d'ici 2029, qui doit être transmise dans les prochains jours à Bruxelles. Un objectif très ambitieux, sachant que la croissance est revue à la baisse cette année, mais aussi en 2026, et qu'il faut intégrer une hausse programmée du budget des armées.
Objectif ambitieux, mais côté mesure, Étienne, rien de concret à ce stade.
C'est tout le problème, en effet. Bercy estime qu'il faudra trouver 40 milliards d'euros dès le budget 2026 et 110 milliards d'économies d'ici à 2029. 2019 afin de réduire les dépenses publiques de 6%. Alors même s'il ne s'agit pas d'une baisse en valeur absolue, mais par rapport à la hausse tendancielle des dépenses, un tel coup de frein serait inédit. Il faudra donc prendre des mesures drastiques sur les arrêts maladie ou le niveau de vie des retraités, par exemple la fin de l'abattement fiscal de 10% sur les pensions et notamment sur la table. Mais comment faire passer un tel budget? La méthode Bayrou consiste à prendre à témoin les Français et à miser sur l'émergence d'un consensus. Mais à en juger par les postures des politiques comme des syndicats conviés hier à Matignon, cela paraît un peu naïf. Le Premier ministre donne rendez-vous dans 3 mois. Il devra d'ici là forcer sa nature pour trancher dans le vif.
L'édito écho d'Étienne Lefèvre du journal Les Échos. Bonne journée Étienne.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Les voix de l'économie, Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin est le directeur général d'Edenred.
Bonjour Bertrand Dumazy.
Bonjour Stéphane Pedrazzi.
Bienvenue sur Radio Classique. Edenred est le spécialiste des titres prépayés, notamment le plus connu d'entre eux, Ticket Restaurant, qui est même devenu un nom générique et qui devrait d'ailleurs subir quelques ajustements dans les prochains mois, on va en parler. On va également parler de vos résultats, de vos chiffres d'affaires en fait trimestriels, publiés il y a quelques minutes, plus 6,7% pour le chiffre d'affaires du premier trimestre et surtout des objectifs confirmé pour l'ensemble de l'année. D'abord, la guerre commerciale avec les États-Unis. Donald Trump a suspendu une partie des droits de douane pour une durée de 90 jours, mais il a prévenu qu'aucun pays ne serait épargné. Est-ce que vous êtes inquiet, sachant que vous êtes présent aux États-Unis?
Oui, nous sommes présents aux États-Unis, mais nous sommes un modèle multilocal de services digitaux. Ça veut dire que nous n'importons rien, nous n'exportons rien, et donc nous ne sommes pas concernés par les barrières douanières éventuelles.
Est-ce qu'il y a néanmoins un impact indirect qui pourrait vous affecter? Je pense notamment aux conséquences sur l'emploi aux États-Unis.
Oui, en fait, l'impact indirect, comme toutes les entreprises, nous sommes soumis à la croissance mondiale. Et donc, si la croissance mondiale ralentit du fait de mesures de rétorsion, de guerre commerciale, on subira en fait ce ralentissement mondial qui, pour nous, peut se traduire de deux manières. La première, c'est une hausse du chômage et donc moins de salariés à l'échelle mondiale à servir, mais aussi dans nos activités de mobilité qui représentent 30% de notre chiffre d'affaires, peut-être moins de kilomètres parcourus, puisque moins d'activités économiques. Donc, de manière indirecte, c'est quelque chose que nous regardons de près. Cependant, nous sommes aussi sensibles au taux d'intérêt et à l'inflation, ce qui peut être un effet négatif sur l'économie, sur ces deux points, et positif pour Edenred.
Justement, les économistes préviennent que les droits de douane pourraient avoir un effet inflationniste aux États-Unis. Pour vous, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle?
Alors, un effet inflationniste aux États-Unis et dans le reste du monde. Encore une fois, Edenred est présent dans 45 pays, et donc un petit peu d'inflation dit plus de pouvoir d'achat pour les salariés, et c'est là où les solutions que nous proposons font merveille.
Vous venez de présenter votre chiffre d'affaires trimestriel, 6,7% de hausse à données comparables, 724 millions d'euros. Vous avez également confirmé votre objectif 2025 pour une croissance de l'EBITDA, donc le revenu brut d'exploitation, d'au moins
10%,
d'au moins 10% en données comparables.
Oui, c'est bien cela.
Quel a été le moteur de ces résultats?
Alors, le moteur de ces résultats, ça a été drivé par deux choses. La première, c'est notre activité mobilité, qui est en croissance à deux chiffres. Et comme Edenred est présent dans l'ensemble du monde, en fait, l'ensemble du monde tracte une croissance à deux chiffres. Et on constate un ralentissement en Europe, puisque notre croissance en Europe a été de l'ordre de 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en dehors de l'Europe, l'activité d'Edenred est en croissance à deux chiffres. En Europe, un ralentissement qui est dû en fait à ces perturbations macroéconomiques, notamment sur les grandes locomotives de l'économie européenne que sont la France et l'Allemagne.
Vous avez des relais de croissance, notamment en Amérique latine.
Oui, alors en fait, quand on regarde notre croissance, elle est à deux chiffres partout sauf en Europe. Et quand on regarde en fait nos activités cœur et les activités qu'on appelle complémentaires, nos activités complémentaires qui représentent 30% de notre chiffre d'affaires sont aussi en croissance à deux chiffres. Alors activités complémentaires, on ne le sait peut-être pas, mais si Amazon, par exemple, en Europe, a des flottes de véhicules qui livrent chez vous un certain nombre de colis, ces flottes de véhicules sont alimentées en énergie, et notamment alimentées en énergie électrique, grâce aux solutions Edenred.
Vous arrivez cette année au terme de votre plan stratégique 2022-2025, période qui a été marquée par la guerre en Ukraine, par la forte hausse des prix de l'énergie, par l'inflation et maintenant par la guerre commerciale avec les États-Unis. Est-ce que vous avez dû revoir certains objectifs à la baisse ?
Alors, sur ce plan stratégique, il n'y a pas eu de revue à la baisse. Je rappelle que sur ces trois dernières années, en fait, si vous regardez le bilan, on emploie 30% de collaborateurs en plus, notre chiffre d'affaires a été multiplié par 1,8, notre profit opérationnel a été multiplié par 2, et on sert 10 millions d'utilisateurs supplémentaires dans le monde, ce qui veut dire que ça a été une période de très forte croissance qui valide cette stratégie. En revanche, quand je dis rien n'a été revu à la baisse, à l'exception de notre croissance de profit opérationnel en 2025, où on pensait faire 12% et l'objectif fixé est à 10%.
Vous allez présenter un nouveau plan stratégique en fin d'année. Il y aura un Capital Market Day en fin d'année. Est-ce que vous allez, par exemple, conserver l'objectif net zéro carbone à horizon 2050 ?
Nous allons garder cet objectif à 2050. Les engagements d'Edenred sont des engagements dans la durée et nous devons tous participer à la décarbonation de notre économie. Les ressources en carbone sont des ressources finies et donc il faut œuvrer à transformer nos modèles.
Le gouvernement travaille actuellement sur une réforme des titres restaurants, notamment sur la question de leur utilisation dans les épiceries et les grandes surfaces pour acheter des produits alimentaires bruts non transformés. Vous pensez qu'il faut conserver cet avantage ? Les restaurateurs y sont opposés ?
Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est revenir à l'essence de ce qu'est un titre restaurant. C'est une mesure d'équité entre ceux qui ont une cantine et ceux qui n'en ont pas. C'est donc de l'alimentation saine au travail. Et la deuxième chose, c'est que quand on dit alimentation saine, cet avantage social, qui est l'avantage social préféré des Français, permet en fait d'aller accéder tous les jours à un repas chaud. Et un repas chaud et prendre une pause pour la santé des Français, mais la santé aussi des 60 millions d'utilisateurs que nous servons dans le monde, est absolument critique, puisqu'on sait que nous sommes ce que nous mangeons. Si vous ne vous arrêtez pas pour faire une pause déjeuner, si vous n'accédez pas à une alimentation saine, alors les risques de maladies cardiovasculaires sont importants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une alimentation saine au travail. Et donc, il faut trouver un juste milieu entre cette alimentation saine qui est servie par les restaurateurs, mais aussi les nouveaux modes de consommation. Mais n'oublions pas que c'est une alimentation saine au travail, équitable entre ceux qui ont une cantine et ceux qui n'en ont pas.
Mais justement, le fait d'acheter des produits alimentaires non transformés, est-ce que ce n'est pas le premier pas vers une alimentation saine ? On sait que la majorité des salariés qui utilisent leur ticket restaurant vont acheter des sandwichs au coin de la rue dégoulinent de mayonnaise.
Ouais, alors, ça n'est pas la majorité des salariés. L'immense majorité des salariés...
Alors, les salariés de Radio Classique ont de mauvaises habitudes.
Ouais. Mais on peut en parler, j'espère que vous avez des tickets restaurants. Mais en fait, non, l'immense majorité des Français va dans la restauration pour manger une alimentation saine. Et surtout, déjà, dans un premier temps, il mange. C'est-à-dire que si vous interrogez un utilisateur de ticket restaurant, il vous dira que grâce au ticket restaurant, il saute deux fois moins de repas à déjeuner que quelqu'un qui n'en dispose pas.
Donc, pour être clair, vous pensez qu'il faut un juste équilibre, mais vous comprenez la colère des restaurateurs ?
Je comprends la colère des restaurateurs, puisque quand on déséquilibre un système, il y a toujours un gagnant et un perdant, et je fais confiance au gouvernement pour trouver un juste milieu.
Est-ce que vous êtes favorable, comme certains l'ont évoqué, à l'instauration de deux plafonds de paiement, c'est-à-dire un plafond pour les commerces alimentaires et l'autre peut-être plus élevé pour les restaurateurs ?
Alors, écoutez, nous, d'abord, notre métier, c'est de pouvoir mettre ça en œuvre. Et donc, grâce à notre technologie et à ce qu'on fait dans le monde entier, c'est possible. Donc déjà, c'est une première chose. Deuxièmement, je fais confiance à Madame la Ministre, à nouveau, pour trouver un juste milieu.
Certains restaurants n'acceptent pas les titres restaurants en raison du montant des commissions. Est-ce que le sujet est actuellement en discussion ?
Alors, d'abord, c'est une fausse information. C'est-à-dire que si on regarde le nombre de commerçants qui acceptent le ticket restaurant, c'est en hausse chaque année. Ça veut dire que globalement, et ça n'est pas vrai qu'en France, c'est vrai partout dans le monde, la reconnaissance du volume qui est apporté et du travail que nous faisons se traduit par les chiffres. Il y a de plus en plus de commerçants dans le monde, y compris en France, qui acceptent ce mode de paiement. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que tout travail mérite salaire et donc cet apport de volume d'affaires doit être rémunéré.
Un dernier mot, vous ne proposez pas uniquement des tickets restaurants. La catégorie qui actuellement connaît une forte croissance, ce sont ce que vous appelez les cartes mobilité, c'est-à-dire cartes essence, cartes péage. Mais aussi, et c'est relativement nouveau, les cartes de recharge électrique.
Absolument. Donc, avec une carte Edenred, vous avez accès à plus de 700 000 points de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride partout en Europe. Et ça n'est pas que les véhicules. On vient de signer un partenariat avec Daimler, qui est un des plus gros constructeurs de camions. Et grâce à Edenred, les camions Daimler, futurs camions électriques, vont accéder à des centaines de points de recharge partout en Europe. Et donc, Edenred contribue, en fait, à la révolution électrique et de la mobilité électrique en Europe.
Merci beaucoup Bertrand Dumazy, président directeur général d'Edenred. Marc, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je ne crois pas que les cartes de recharge électrique vont fonctionner avec votre trottinette.
Pas tout de suite, en tout cas pour l'instant, malgré la trottinette. Merci en tout cas à tous les deux.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et Nicolas Tenzer pour l'Écho du Monde à 7h39. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marc.
Samedi, se sont tenus des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire iranien sous l'égide du sultanat d'Oman. Les discussions reprennent ce week-end. Les deux parties ont tenu des propos encourageants jusqu'ici. Cela semble un revirement complet par rapport à la première présidence Trump.
Pour le moins, le 8 mai 2018, Trump avait retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien conclu le 14 juillet 2015 et associant les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Allemagne, l'Union Européenne et l'Iran. Le retrait américain avait créé la consternation auprès des autres partis qui avaient décidé de continuer à respecter l'accord. Il prévoyait notamment la fin de l'enrichissement de l'uranium par Téhéran, un taux limité à 3,67%, l'arrêt de la production de plutonium et un contrôle régulier de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, en contrepartie de quoi les sanctions envers l'Iran seraient levées. Résultat du retrait américain, l'Iran avait poursuivi l'enrichissement de son uranium jusqu'à 60%. Il faut un taux de 90% pour fabriquer une bombe atomique. L'accord avait été critiqué à l'époque, d'une part parce qu'Obama avait fermé les yeux sur les exactions de Téhéran en Syrie pour ne pas compromettre sa conclusion, d'autre part parce que l'accord était muet sur les autres composantes de la menace iranienne, fabrication de missiles balistiques et déstabilisation de plusieurs pays du Moyen-Orient.
Et depuis, Nicolas, les choses ont évolué.
Oui, d'abord, Trump espère engranger des succès diplomatiques. Peut-être cela-t-il sera plus aisé avec l'Iran qu'avec la Russie. Ensuite, l'Iran est considérablement affaibli. Son bras armé, le Hezbollah, a perdu de sa superbe après les attaques israéliennes contre ses bases au Liban et l'exécution de plusieurs de ses dirigeants. Le régime Assad est tombé. L'Iran connaît une crise économique encore plus forte et a besoin d'un bol d'air dans un contexte de contestation accrue. Un président moins dur, quoique non vraiment modéré, Massoud Pezeshkian, est arrivé au pouvoir le 28 mai 2024. Reste un autre facteur, moins avouable. Trump et ses conseillers sont très alignés sur la Russie, qui est un allié de l'Iran. Il n'est point fortuit qu'après les premières discussions et avant la prochaine rencontre, le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi se rende à Moscou pour rencontrer Sergueï Lavrov et d'autres responsables russes.
Et comment les pays européens, Nicolas, partie prenante à l'accord de 2015, voient-ils ces négociations?
Ils les saluent avec prudence et vigilance, comme l'a déclaré notamment Jean-Noël Barrot. Après avoir critiqué le retrait américain, il ne pouvait faire autrement. Rigne révélateur, en même temps, la France a demandé hier à l'Union européenne de sanctionner 7 personnalités et 2 entités iraniennes accusées de prise d'otages de ressortissants européens. L'Europe, et pas seulement Israël, serait la première visée si Téhéran mettait à bien son programme nucléaire. Les Européens demandent un rapport circonstancié à l'AIEA. L'obtention de la bombe n'est toutefois pas pour demain. Même si l'Iran réussissait à la fabriquer, entre le développement et les essais, qui ne passeraient pas inaperçus, il faudrait plusieurs années avant qu'elle soit opérationnelle. Restent d'autres inquiétudes. L'Iran fournit massivement Moscou en drones, qui assassinent quotidiennement des civils iraniens, en échange de quoi Téhéran reçoit une aide russe pour son programme de missiles balistiques. Même affaibli, le Hezbollah demeure une menace sérieuse. Il ne faudrait pas qu'un accord nucléaire, aussi justifié soit-il, soit l'arbre qui cache la forêt des risques posés par le régime policier de Téhéran. Le pire, pour le peuple iranien comme pour le monde, est qu'il soit relégitimé et renforcé.
L'Écho du Monde avec Nicolas Tenzer. Merci Nicolas et à demain.
Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier.
Je vends ma carte chance et je puise dans la caisse en a bien mérité. De toucher une avance si c'est pour rendre la caisse à la commune.
Zazie et son hôtel rue de la Paix pour conclure ce journal imprévisible d'Augustin Lefebvre.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et David Barou pour son décryptage écho à 7h53. Bonjour David.
Bonjour Marc.
Le football français traverse une nouvelle crise.
Oui, oui, oui. Alors dans le football, il y a les bonnes surprises, comme le PSG hier soir qui a réussi à se qualifier. Il y a les défaites sportives et puis il y a les catastrophes économiques. Et bien là, franchement, on est dans le dernier cas. Hier, la Ligue de football professionnel, qui est censée défendre les intérêts des grands clubs de Ligue 1 et 2, a été obligée de reconnaître qu'elle n'aurait peut-être plus de diffuseurs télé pour l'essentiel des matchs. L'an prochain, DAZN, qui est cette chaîne télé qui, depuis le début de la saison, a en effet avoué que l'équation économique ne tenait pas la route. Ils dépensent autour de 400 millions par an, mais ils n'ont séduit que 500 000 abonnés. Du coup, ils perdent entre 200 et 250 millions. C'est énorme, ça ne peut pas continuer. Et donc, cela risque bien de s'arrêter.
Et c'est une très mauvaise nouvelle pour les clubs français aussi.
Ouais, c'est à nouveau l'affaire Mediapro. C'est une catastrophe, car tous les clubs ont besoin de recettes audiovisuelles pour boucler leur budget. Aujourd'hui, il y a un diffuseur et plein d'équipes sont déjà en perte économique. Demain, s'il n'y a plus de diffuseur, il y aura encore plus de pertes. Encore plus d'obligations de vendre tous les ans ses meilleurs joueurs, le mercato, pour gagner un peu d'argent sur le marché des transferts. Le foot français est déjà plus pauvre que les autres et en plus, en vendant ses talents, il s'appauvrit tous les ans sportivement. Et le risque, c'est que la Ligue n'arrive pas à trouver un diffuseur prêt à mettre plusieurs centaines de millions d'euros sur la table pour la saison prochaine.
Alors David, quelles sont les options de la Ligue ?
Il n'y en a pas beaucoup. La première, ça serait d'essayer de trouver encore un terrain d'entente avec DAZN pour qu'il continue. Mais les deux camps semblent aujourd'hui tout proches de la rupture et je pense que le match va plutôt se terminer devant les tribunaux. Deuxième option, relancer un appel d'offres dans l'urgence pour trouver un nouveau diffuseur fin août. Mais les candidats ne risquent pas de se bousculer. Le seul diffuseur potentiel, ce serait Canal+, mais il a coupé les ponts avec le foot français et n'investit plus que sur le foot européen. Il n'a pas franchement envie d'aider, et d'ailleurs, même s'il en avait l'envie, c'est pas sûr qu'il en ait les moyens. Et il faudrait que les droits télé baissent beaucoup et que Canal puisse partager l'addition avec beIN, par exemple. C'est pas impossible, mais c'est franchement compliqué. Dernière option, que la Ligue lance sa propre chaîne. Sur le long terme, si ça marche, ça serait la solution la plus rentable, car s'il y a des bénéfices, tout tomberait dans les caisses de la Ligue et des clubs. Mais cela représente un véritable risque économique, car si ça marche pas, par contre, ce sont les clubs qui payent l'addition et qui assument le risque. Et à court terme, c'est économiquement très compliqué, car on commence la saison avec zéro abonné, zéro recette, juste des dépenses. Les clubs ne peuvent pas faire de budget, et si les abonnés ne sont pas au rendez-vous, comme avec DAZN, ça sera la faillite pour pas mal de clubs et le déclin pour d'autres.
Le décryptage écho de David Barou. Bonne journée, David.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 8h12 sur Radio Classique, l'édito politique de Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marc.
La vérité permet d'agir. C'était l'intitulé de la conférence de presse de François Bayrou hier sur les finances publiques. Que faut-il retenir de cet exercice, Guillaume ?
Écoutez, il faut d'abord retenir un constat. La France a atteint un niveau de déficit et d'endettement insupportable, a-t-il dit, auquel il faut désormais s'attaquer. D'où ces formules très fermes de François Bayrou sur la survie de notre pays qui est en jeu, sur la nécessité d'une confrontation les yeux ouverts avec la situation, et d'où ce mot de vérité qui est revenu comme un leitmotiv. Alors, on peut faire remarquer que dire, ça n'est pas faire, et qu'établir un diagnostic, ça n'est pas apporter des solutions. Mais à l'inverse, on peut quand même reconnaître que la lucidité, c'est quand même mieux que le déni, et que la clarté sur la situation est préférable à l'habileté visant à la contourner. Donc, de ce point de vue, on peut dire quand même que l'exercice du Premier ministre était une première étape.
Mais s'est-il contenté de faire un constat de la situation dégradée des finances publiques ?
Non, il a quand même été plus loin. Il est passé du constat au diagnostic, en soulignant que ce dont la France souffrait, c'était d'une insuffisance d'activité, et que donc, on ne s'en sortirait pas sans travailler plus. Ça peut sembler une évidence, mais oser dire ça, ça n'est déjà pas totalement consensuel. Ensuite, s'il n'est pas encore entré dans les propositions concrète pour redresser les finances publiques, il a au moins fixé deux bornes. Pas question de s'endetter plus encore et surtout, pas question d'augmenter les prélèvements obligatoires. Deux solutions de facilité, a-t-il dit. Et mine de rien, c'est quand même courageux de dire cela, car tous les gouvernements, y compris ceux d'Emmanuel Macron, ont laissé allègrement filer la dette depuis des décennies. Et c'est courageux de le dire alors que la gauche réclame encore et toujours d'utiliser le levier fiscal et que si cette gauche n'est pas au gouvernement, c'est quand même elle qui a pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement actuel via l'arme de la censure. Donc autant dire que François Bayrou va s'atteler à un budget dont les mesures recèleront un risque de censure.
Donc pas d'endettement, pas d'impôts, mais 40 milliards à trouver pour boucler ce budget 2026. Bayrou a-t-il dévoilé sa thérapie ?
Eh bien non. Oui. Hein. Et la solution, et on le sait évidemment, ce sont des économies. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, a promis qu'elles seraient réparties équitablement entre l'État, le social et les collectivités locales. Mais on n'en sait pas plus. On sait juste qu'en termes de calendrier, le Premier ministre veut que toutes les pistes soient sur la table avant le 14 juillet. Mais pour le reste, hein, il veut commencer par faire de la pédagogie. Alors très bien, hein, mais la pédagogie, c'est une méthode, ça n'est pas une thérapie. Et puis on peut faire toute la pédagogie que l'on veut. On peut prévenir en amont qu'il faudra faire des efforts. On peut tenter de faire partager un diagnostic. Il arrive quand même bien un moment où il faut bien présenter l'addition elle-même. Et quand on doit trouver au moins 40 ou 50 milliards d'euros, on peut faire tous les efforts de présentation que l'on veut. Ça n'est pas ça qui rendra les solutions populaires. Alors on peut dire que hier, Bayrou a tenu un discours de vérité. Il lui reste quand même maintenant à passer à l'épreuve de vérité, avec deux écueils qui, pour parler comme lui, sont des Himalayas. Une assemblée hostile et une opinion rétive.
L'édito politique de Guillaume Tabar, comme chaque matin. Merci Guillaume.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Christian de Voissieu.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, et vous publiez avec votre confrère Marc Schwartz La nouvelle guerre des monnaies, parue aux éditions Odile Jacob. Avant d'explorer cette bataille de devises qui se joue actuellement dans le monde, un mot sur la prise de parole de François Bayrou, dont parlait Guillaume Tabar à l'instant. On a le diagnostic, on se dirige vers un remède de cheval, c'est inévitable.
Ça va pas être facile. Alors moi, j'aime bien la pédagogie, je suis prof, donc je ne vais pas être contre, loin de là, mais les 40 milliards d'économies, j'attends de voir comment on les trouve. D'autant plus que la croissance reste quand même très incertaine. Alors le gouvernement a revu à la baisse sa prévision de croissance pour cette année, on est à plus 0,7%, on venait de plus 0,9%, mais je veux dire, compte tenu de l'incertitude créée par le président américain, les réponses aux réponses, les réactions aux réactions. Principal aléa à la croissance, parce que ça conditionne les rentrées fiscales, TVA, impôts sur les sociétés, etc. Et puis sur les dépenses, parce qu'il s'agit de ça, on est quand même dans un contexte où les charges d'intérêt vont continuer à augmenter, avec l'augmentation de la dette. On fait une rallonge sur les dépenses militaires par rapport à la loi de programmation. Il faut financer quand même un peu les dépenses de transition énergétique, écologique. On n'en parle plus d'ailleurs. On a l'impression qu'un sujet recouvre l'autre aujourd'hui. Et donc, y a quand même cette addition à financer du côté énergétique, écologique, financer l'éducation, la santé. Donc, moi j'attends avec beaucoup d'impatience et d'intérêt comment ça va se répartir les 40 milliards entre les trois étages de la fusée, État, collectivité locale et sécurité sociale. Ça veut quand même dire, à mon avis, le message que j'ai compris hier, c'est que, je pense que le Premier ministre a raison, on ne revient pas sur le principe des 64 ans sur la réforme des retraites. Il ne l'a pas dit comme ça, mais je veux dire, quand il dit produire plus, sur le cycle de vie, augmenter le taux d'emploi des jeunes et des seniors, c'est génial, mais comment on fait ?
Comment on fait, c'est ça, j'allais vous poser la question.
Là, on est tous d'accord sur le fait que la France n'est pas très bonne et même mauvaise sur le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors, mais comment on s'y prend ? Améliorer la productivité, comment on fait ? Ça passe par l'innovation, la recherche et développement. Bon, moi j'attends du concret maintenant.
Et on n'y est pas en termes d'innovation pour l'instant ?
Non, j'ai pas vu tellement de ruptures pour l'instant. Les innovations de rupture, elles sont plutôt faites aux États-Unis pour l'instant que chez nous.
Et la transition est toute trouvée, Christian de Boissieu, puisqu'on va parler des États-Unis à présent. Et le Premier ministre en parlait hier, de ce tremblement de terre, des droits de douane américains, les ordres et les contre-ordres, les annonces arbitraires, puis des sursis. À quoi joue exactement Donald Trump, le président américain aujourd'hui ?
Je sais pas, il est dans le rapport de force permanent. Il joue à ça. Je pense que derrière tout ça, il y a quand même de l'idéologie, c'est-à-dire que quand je regarde les travaux des économistes qui l'inspirent, je pense à Stéphane Miran, qui est son principal conseiller économique, il y a quand même tout un plan derrière. On a l'impression que tout ça est erratique, mais il y a un plan, parce que Stéphane Miran, lui, depuis l'année dernière, il dit au fond, tout ça, c'est de la faute du reste du monde, de nous, quoi. Mmh. Surtout pas des États-Unis, disent-ils. Les Américains sont jamais responsables de leur déficit commercial, à les entendre. Bon, c'est nous, et on a une soif de dollars, ça fait monter le dollar.